Bienvenue, bienvenue pour ce déclencheur. Je vous emmène au Salon de la Photo pour une des conférences de l'Agora du Net. Cette fois-ci, on va parler de visite virtuelle. Comme pour d'autres conférences, je crois que vous profiterez mieux de celle-ci en téléchargeant au préalable la présentation que Mathieu Thomas a utilisée. Il est également intéressant de regarder la visite virtuelle du stand de l'Agora du Net qu'il a réalisé. Les liens vers tous ces documents se trouvent bien évidemment sur www.déclencheur.com.
Bienvenue, bienvenue sur le stand de l'Agora du Net. Installez-vous, asseyez-vous, on commence la conférence sur les visites virtuelles avec Mathieu Thomas. Alors l'Agora du Net, qu'est-ce que c'est? Ce sont 11 sites photos qui se sont groupés pour vous proposer au Salon de la Photo, toutes les heures, une conférence sur des thèmes absolument passionnants. Je m'appelle Benoît Marchal, je représente le site Déclencheur, qui est là. Déclencheur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un magazine mobile, un magazine qu'on installe sur son iPod, sur son iPhone, sur son baladeur MP3, sur son téléphone mobile, sur sa PlayStation, sur n'importe lequel de ces accessoires qu'on a maintenant aujourd'hui en poche. Et vous pouvez en porter, du coup, et en profiter en voiture, dans le train, dans le métro, c'est-à-dire tous ces moments où on ne va pas nécessairement vouloir emporter un gros livre photo, eh bien on peut quand même apprendre des choses sur la photo, progresser, soit dans sa profession, soit dans sa passion. On couvre un panel de thèmes extrêmement large. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui et maintenant d'accueillir Mathieu Thomas, qui est auteur photographe, panographe et un spécialiste des visites virtuelles, ben justement pour nous parler de sa spécialité, c'est-à-dire les visites virtuelles. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se construit? Vous allez tout apprendre pour ça. Mathieu, on t'écoute.
Merci Benoît. Eh bien tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Est-ce qu'il y a, parmi les gens qui vont m'écouter, des gens qui ont déjà fait des visites virtuelles ou qui savent approximativement ce que c'est? Oui? Pas beaucoup qui lèvent la main. Hein. 1, 2, 3, 4. D'accord, très bien. Donc les autres, vous n'avez jamais vu de visite virtuelle, vous ne savez pas ce que c'est. C'est bien cela. Alors moi, comme l'a dit Benoît, je suis auteur photographe, je suis spécialisé dans la réalisation de visites virtuelles. Donc je vais vous présenter ça pendant 30 minutes. Donc pendant 30 minutes, c'est très compliqué de présenter les visites virtuelles, de vous montrer comment ça se déroule, quel matériel il faut avoir, quel logiciel, quel type de tête panoramique utiliser, est-ce qu'il faut un compact, un bridge. Donc je ne vais pas m'étendre vraiment sur le sujet du matériel avec le choix entre deux marques par exemple, je vais plus m'étendre sur la réalisation même d'une visite virtuelle. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une visite virtuelle? Eh bien c'est une présentation informatique qui permet de visiter un lieu intérieur ou extérieur. Ça veut dire qu'imaginez que votre œil puisse voir à 360 degrés. C'est ce principe-là. La visite virtuelle, c'est pouvoir voir en intérieur extérieur à 360 degrés sur Internet, en local ou en distance, sur Internet ou sur son ordinateur. Donc pour cela, il va falloir bien sûr avoir un navigateur Internet. Et donc la majorité des ordinateurs à l'heure actuelle ont ce qu'on appelle Flash qui est installé. Donc 90% des gens qui ont un ordinateur sont capables de voir une visite virtuelle. Le principe de la visite virtuelle, parce que bien sûr c'est à la base c'est de la photo, c'est un vrai travail de photographe, c'est de prendre plusieurs photos et de les assembler. C'est ce qu'on appelle la photographie panoramique par assemblage. Sauf que là, le format va changer. Le format va être 360 degrés en horizontal et 180 degrés en vertical. Donc la photo panoramique, qu'est-ce que c'est? Je viens de vous le dire. Comme vous le voyez ici, on va prendre plusieurs photos, voilà, en mode portrait ou paysage, peu importe, et on va les assembler. Donc il faut qu'entre deux photos consécutives, il y ait un taux de recouvrement. Et au final, la photo assemblée par logiciel, donc Adobe ou Photoshop, Photomerge ou Color, Autopano Giga, peu importe le logiciel que vous utilisez, le résultat est celui-ci. On obtient une photo panoramique par assemblage. Et bien pour la visite virtuelle, c'est exactement pareil. Vous allez prendre plusieurs photos avec votre appareil photo, donc je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait. Sauf que cette fois-ci, les photos ne vont pas être assemblées réellement à l'horizontale, mais fictivement dans un cube virtuel. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a un patron de cube dans lequel j'ai inséré, eh bien, alors, 6 photos. Voilà. Les 6 photos, on en a 4 à l'horizontale, donc on a 4 faces de cube, une face en haut, 5, et la face du sol, 6. Ça en extérieur ou bien en intérieur. Donc la visite virtuelle, le principe, ça va être de fermer ce patron de cube en cube fictif, virtuel. Donc les photos, imaginez-vous, vous allez être à l'intérieur du cube. Voilà, le cube va être assemblé. On va voir quelque chose comme ça. Donc ça, c'est là où le logiciel intervient. Et où est-ce que le photographe intervient? Eh bien, c'est bien avant. photographe, il va se positionner dans la pièce, il va essayer de trouver la lumière appropriée, savoir s'il faut faire du HDR, donc de la double exposition ou pas, pour avoir un gradient de luminosité correct. Et au final, le rendu donc, de ce cube, l'utilisateur va être plongé dans ce cube à 360 degrés. Ce qui va dire qu'il va pouvoir voir toutes les faces. Et donc, vous allez avoir sur votre ordinateur, donc là, par exemple, Internet Explorer ou Firefox, peu importe, vous allez avoir la visite du lieu où la photographie à 360 degrés a été réalisée. Donc, vous allez voir comment ça se passe, quel matériel faut utiliser et le rendu final à la fin. Alors, il y a une problématique qui s'est posée dès le départ en termes de photographie panoramique et surtout en visite virtuelle, c'était de savoir est-ce qu'il fallait utiliser de l'argentique, est-ce que c'était possible d'utiliser de l'argentique ou bien est-ce que c'était vraiment le numérique la seule possibilité. Eh bien oui, c'est le numérique qui l'emporte. En argentique, on peut pas. Imaginez-vous, avec une négatif assemblé à 360 degrés, c'est impossible. Comment est-ce que vos négatifs vont pouvoir être intégrés dans l'ordinateur à part en les scannant? C'est très très difficile, voire impossible. Du coup, le numérique, l'avantage qu'on a par rapport à ça, c'est qu'on va pouvoir assembler sa photo à 360 degrés avec un logiciel, on va pouvoir développer ses photos avec un logiciel, donc les photos vont être prises en format RAW, format brut, et on va pouvoir apporter des corrections de couleurs. Après, on va pouvoir corriger, suivant le type d'objectif qu'on va utiliser, on va pouvoir corriger les distorsions des optiques, les aberrations chromatiques, des choses comme ça. Et le numérique, c'est également ce qui permet de visionner donc sur Internet, sur un ordinateur. Donc il faut forcément avoir un ordinateur pour voir une visite virtuelle ou bien une borne. Donc le matériel conseillé, comme je viens de le dire, c'est d'avoir un appareil photo numérique. Mais alors, est-ce qu'il faut un compact? Est-ce qu'il faut un bridge? Est-ce qu'il faut un réflexe? À la limite, j'ai envie de vous dire, peu importe. À partir du moment... Alors, moi, je vous conseille d'avoir quand même un réflexe avec un mode d'exposition manuelle et une balance des blancs manuelle. Mais il faut bien savoir que même avec un compact, si vous prenez votre petit compact pour faire des photos de famille le dimanche, vous pouvez réussir à faire des visites virtuelles. Sauf que, imaginez-vous avec... Bon, j'ai pas de compact sur moi, je suis désolé, mais imaginez-vous avec votre compact, vous allez prendre une photo, etc., etc. Puis remonter un petit peu, une photo, de façon à englober 360 degrés dans une sphère. Alors, ça va faire un nombre de photos qui va dépasser les trois chiffres. Et tout ça assemblé derrière par logiciel, si vous n'avez pas un super ordinateur, ça ne va pas être super. Mais ça peut fonctionner. À partir du moment où vous prenez les photos comme il faut, vous allez pouvoir avoir un rendu quand même correct, mais sur un petit écran. Donc moi, ce que je vous conseille d'avoir, c'est quand même d'avoir un réflexe avec pouvoir faire du RAW, un mode d'exposition manuel et une balance des blancs manuelle. Tout simplement parce que si demain, comme moi, vous faites une présentation au salon de la photo et que vous voulez présenter une visite virtuelle sur un grand écran, qui est beaucoup plus grand que du 22 pouces ou que du 19 pouces, comme on a quasiment tous eu chez soi, eh bien, il faut que la qualité photo, elle soit irréprochable. Il ne faut pas qu'il y ait un défaut d'assemblage sur la photo finale assemblée. Alors qu'avec votre compact, imaginez qu'on ait fait une visite virtuelle avec un compact et qu'on l'ait présenté sur un grand écran comme ça, et ben, par exemple sur la poutre là, entre une photo prise là, une photo prise ici, et ben, la poutre aurait été décalée. Il y aurait eu une petite aberration, une petite distorsion. Ça n'aurait pas été très, très très joli. Alors que sur un petit écran, ça, on ne l'aurait pas vu. Voilà. Donc l'idéal, c'est d'utiliser un grand angle. Donc un fisheye. C'est vraiment l'idéal. Donc moi, je travaille avec un 10 mm et demi Nikkor, mais vous pouvez très bien le faire avec un 35 mm ou un 24. Sauf que avec un 35 mm, comme je l'explique ici, vous allez devoir faire plus de photos qu'avec un 14 mm. Ça, c'est forcément c'est intuitif. Donc l'idéal, c'est d'avoir un fisheye, et là, on réduit le nombre de photos à 8, voire 9. Voire il y en a qui font des visites virtuelles en 3 photos. Voilà. Bon, après, c'est des cas spéciaux. Alors, il faut bien sûr avoir une carte mémoire de très grande capacité si on travaille en RAW. Il faut avoir un trépied stable. Imaginez-vous, vous faites une visite virtuelle à côté d'une autoroute ou en montagne, il y a du vent, il y a des vibrations dans le sol. Si le trépied n'absorbe pas les vibrations, au final, sur vos photos, vous allez avoir un petit flou de bouger. Ça va pas être super. Donc, faut vraiment travailler dès le départ, si vous voulez vous lancer dans la visite virtuelle, avec du matériel solide et du matériel d'appoint. En plus de ça, si on veut être vraiment professionnel, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle une tête panoramique sphérique ainsi qu'une rotule graduée. Donc ça, c'est si vraiment on est là, on passe dans l'aspect professionnel, on veut vraiment faire une sphère complète et n'avoir aucun défaut, aucune distorsion, aucune aberration, voilà. Donc on va mettre en fait la rotule. Alors c'est une rotule qui est graduée et qui tourne tous les X degrés. Donc la rotule se fixe sur le trépied. Voilà. Vous remarquerez qu'il y a un plateau coulissant, juste là, qui va permettre d'accueillir une réglette graduée. Alors, la réglette, elle va se positionner comme ça. Elle va venir se fixer dedans. Et le principe de la rotule graduée, comme je viens de le dire, et comme son nom l'indique, c'est que, tac, elle s'arrête. Tac, elle s'arrête. Donc là, elle est fixée à 6 photos en horizontale. Donc je vais pouvoir faire 6 photos. Donc 6 fois 6, 36, je vais englober 360 degrés, etc., etc. Donc je suis sûr de m'arrêter au bon degré, au millimètre près. Au millimètre près, pourquoi ? Parce que dessus, comme je viens de le dire tout à l'heure, la réglette graduée va venir se fixer sur la rotule. Hop, on la fixe. Et c'est une réglette graduée, tout simplement, parce que je vais vous le présenter tout à l'heure, si on veut avoir aucun défaut, zéro défaut d'assemblage sur sa photo, il faut être à la pupille d'entrée. Donc ça, j'en parlerai après. La pupille d'entrée, quand vous avez un objectif, eh ben pour une focale fixe, vous n'avez qu'une pupille d'entrée. Pour un zoom, vous allez en avoir plusieurs. Donc moi, avec un 10, avec un 10,5 Nikkor, je n'ai qu'une pupille d'entrée. Donc il faut que la pupille d'entrée, dans l'espace, sur X photos consécutives, elle ne bouge pas. Sinon, on va avoir des déformations. Pareil, avant d'assembler, avant de passer les photos qu'on a fait, dans le logiciel, il faut être au niveau. Il faut avoir un niveau à bulle. Donc moi, le niveau à bulle, il est intégré dans mon trépied. Mais si vous avez un niveau à bulle classique sur votre appareil photo que vous pouvez mettre sur la petite grille, vous le mettez là. Vous regardez bien que vous êtes à niveau. Ça va vous éviter de perdre de la matière photo. Si vous êtes bien à l'horizontale, vous êtes sûr qu'au final, le rendu ne sera pas décalé. Vous n'aurez pas une poutre qui va pencher un peu à droite ou à gauche. Voilà, c'est pour ça qu'il faut utiliser un niveau à bulle. Alors ensuite, on peut utiliser une colonne centrale, tout simplement pour jouer sur la hauteur. Donc moi, j'en ai une qui me permet juste de jouer sur la hauteur, parce qu'on a un trépied qui n'est pas très très haut. Et puis, on peut avoir ce qu'on appelle une platine de mise à niveau, qui est présentée ici. Ça, c'est tout simplement, si on n'a pas de niveau à bulle, elle vient se fixer juste en dessous de la rotule. Donc, ça va pouvoir, avec 3 vis, on va pouvoir jouer sur le niveau et faire son niveau à bulle avec la platine de mise à niveau. Donc, c'est des petits ustensiles qui, parfois, facilitent bien la prise de vue. Donc, moi, je vais vous présenter la visite virtuelle, mais... Le matériel, disons, il y en a plein. Si vous allez juste derrière ce stand, il y a les 360 précisions qui tournent toutes seules. Voilà, ça c'est. Vous n'avez plus rien à faire. Vous posez le trépied, c'est téléguidé. Enfin, il y a un système électronique qui tourne tous les X degrés. Vous êtes sur votre ordinateur et la tête sphérique tourne toute seule. Alors que là, on a des têtes sphériques. Donc là, c'est une tête sphérique Manfrotto, mais on a également une tête sphérique Nodal Ninja. Alors, niveau encombrement, tout dépend si vous allez partir en montagne, à la plage, la place que vous avez surtout dans votre sac à dos. Parce que il faut savoir qu'une tête sphérique, voilà, ça prend un petit peu de place, mais rangée, au final, ça tient là-dedans. Donc, c'est pas très très cher en plus, et ça facilite la vie. Ça permet d'avoir un panorama qui a quasiment zéro défaut. Donc, la Nodal Ninja, comme vous le constatez, elle est assez fine, très pratique et très peu encombrante par rapport à la Manfrotto. Puisque la Manfrotto, il y a la rotule, la tête panoramique, et puis il y a les petits ajustements derrière qui prennent un peu de place, qui ne se rangent pas, quoi. Donc la pupille d'entrée, comme je vous l'ai dit, c'est le point de rotation idéal de l'appareil. Donc pour chaque objectif, pour tous ceux qui ont un réflexe, même pour un compact, il y a une pupille d'entrée. Mais il y a une pupille d'entrée pour chaque focale. Donc moi, à 10,5, je n'ai qu'une focale. Donc le but du jeu, ça va être de placer son appareil... Voilà, sur la platine. Tac, elle est enclenchée. Et les platines sont graduées. Donc le but du jeu, ça va être que quand mon appareil tourne, eh ben, l'appareil, vous voyez, ne va pas falloir qu'il bouge comme ça. Il va falloir qu'il soit fixé. Donc on va le serrer. Là, il tourne. Mais là, est-ce que je suis sûr d'être bien dans l'axe vertical du trépied pour que l'assemblage se fasse parfaitement ? Et est-ce que je suis sûr que par rapport à mon deuxième axe celui-ci. La pupille ne va pas bouger de temps en temps. Donc là, le but du jeu, ça va être trouver la pupille d'entrée, ce qu'on appelle le point nodal, de façon à n'avoir aucun défaut. Donc pour ce faire, il va falloir donc placer l'appareil photo, comme vous le voyez ici en photo, et utiliser les réglettes. Donc les réglettes, comme vous le voyez sur les photos, elles sont graduées. Donc le graduage va permettre de placer au millimètre près, j'insiste bien, parce que si vous êtes 1 ou 2 millimètres décalé, eh bien, la poutre que vous allez prendre en photo, sur deux photos consécutives, elle sera coupée en deux, par exemple. Alors que si je suis placé à la pupille d'entrée, au point nodal, eh bien, elle sera impeccable sur les deux photos assemblées au final. Donc comment est-ce qu'on va trouver la pupille d'entrée? Alors déjà, c'est la première chose à faire, c'est très simple, c'est de prendre en photo son trépied et de viser l'axe de rotation du trépied, l'axe qui est ici. Et en fait, comme vous allez le voir sur la photo d'après, ce qu'on voit, voilà, c'est l'axe de rotation. Et la platine est graduée, on a deux graduages, donc on peut noter au millimètre près déjà le premier axe des X pour être sûr d'être bien placé verticalement. Ensuite, c'est là que ça devient un peu plus complexe, et comme je l'ai dit tout à l'heure, le point nodal, il a trois coordonnées. Donc là, on vient de trouver X et Y est forcément fixé en fonction de la hauteur de votre trépied et de la hauteur de la tête panoramique que vous utilisez. Puisque la Y, en fait, il va passer par là. Et maintenant, il va falloir trouver la profondeur. Comment être sûr que ma pupille ne bouge pas en Z? Donc le Z, c'est ce que moi j'ai appelé la profondeur, d'autres appellent autrement. Et donc pour le trouver, là c'est un peu plus compliqué, il va falloir jouer sur cette platine, l'avancer un peu plus ou un peu moins, l'avancer ou la reculer, viser un premier plan et un arrière-plan sur deux photos. Donc vous allez le voir juste après, c'est très très simple. Voilà, on place l'appareil photo, on essaye, dans un premier temps, on la place à 9 ou 10 mm, et on va prendre deux photos. Donc là, j'ai pris un premier plan, une porte, et j'ai pris un arrière-plan, un flash. Donc sur deux photos, lorsque je fais ma photo où le trépied, où la porte est à droite et le flash est derrière, mais toujours à droite, ça c'est sur la photo de droite. Donc imaginez, je vise la poutre, voilà, qui est là, il y a un arrière-plan, je regarde bien dedans, voilà, je prends une photo, ça donne ça. Je décale mon appareil, cette fois, alors dans le sens du coup, puisque j'ai dit à droite, cette fois la poutre dans ma photo, elle est à gauche et mon arrière-plan, toujours pareil. Ça va donner ça. La porte est décalée par rapport au flash derrière. Ça veut dire que je ne suis pas à la pupille d'entrée. Donc le but du jeu, ça va être de jouer sur l'avancement de la réglette afin de placer la réglette et de placer l'appareil photo à la pupille d'entrée. Donc si on n'est pas à la pupille d'entrée, le résultat, tout simplement, ça ne va pas être très beau. On va voir apparaître des défauts d'assemblage. Donc là, on voit que la porte, elle passe devant le flash. Voilà, que là, la porte, elle est un peu distordue. Donc on n'est pas du tout à la pupille d'entrée. Alors que si on la place au millimètre près, voilà ce qui se passe. Le premier plan est aligné avec l'arrière-plan. On est forcément à la pupille d'entrée. Et quand on assemble ces deux photos, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient une photo assemblée parfaite, avec aucun défaut. Voilà, donc le but du jeu, c'est là la partie la plus complexe de la réalisation d'une visite virtuelle, c'est de bien optimiser son matériel afin d'être sûr d'être à la pupille d'entrée de l'objectif utilisé. Alors, le principe d'une prise de vue, c'est de prendre des photos à l'horizontale, mais aussi en verticale, en prenant le plafond en photo, ainsi que le sol. Donc, on va faire un exemple en direct, parce que c'est le but du jeu, de faire une visite virtuelle en direct, et on va voir ce que ça donne. Je me règle à F11, je fais ma mesure, tac, voilà, je suis à F11. On va se mettre à ISO 200, tac, voilà. Donc là, ma rotule graduée est placée, je suis à niveau, tout va bien, je suis à la pupille d'entrée, j'ai fait mes repères, impeccable. Et là, vu que je l'ai bougé, je le remets à la pupille d'entrée, 9 mm, impeccable. Donc là, je suis sûr que je suis à la pupille d'entrée, je suis à niveau. Ma pupille d'entrée dans l'espace, elle ne bouge pas. Du coup, on va pouvoir commencer la visite virtuelle. Donc, comme vous le voyez ici, il y a un graduage qui est effectué ici, en fonction des degrés. Donc là, je vais me placer vraiment à l'horizontale, à 0 degré. Je vais placer mon appareil photo, qui va viser le monsieur avec les lunettes ici. Je mets mon petit cran, ma vis de serrage, sur 6. Ça veut dire que je vais effectuer 6 photos à l'horizontale, mais je peux très bien en effectuer 4. Sauf que si j'en effectue 4, ma zone de recouvrement entre deux photos consécutives sera moins importante. Je peux en effectuer 6, 8, 10, 12, etc. Donc moi, je travaille sur 6. 6 photos, ça correspond à peu près à 15% de recouvrement entre deux photos. 10 à 15%. Je fais ma première photo. Tac. Je décale. Hop. La rotule, on a entendu un tac. Donc vous, vous l'entendez peut-être pas très bien. Elle s'est arrêtée à 60 degrés. Je prends une deuxième photo. Donc bien sûr, après, il y a un travail de photographe. On vérifie l'histogramme. Est-ce qu'il faut faire de la double exposition? Bon, là, il n'y a pas grand intérêt. On n'a pas une lumière très dure. On ne voit pas dehors. Il n'y a pas grand intérêt à faire de la double exposition. Je continue. Je prends une troisième photo. Etc., etc., etc. Je prends 6 photos à l'horizontale. Une fois que j'ai fini de prendre mes photos à l'horizontale, je prends ma photo du plafond. Donc moi, je travaille avec un fisheye. Je fais 6 photos, 7 le plafond. Et pour le trépied, c'est la surprise. Je vous le dirai après. Donc là, pareil, je suis à 90 degrés. Voilà, impeccable. J'ai fait ma photo du plafond. Donc je suis à 7 photos. C'est là que ça se complique. Je me place à 90 degrés. Je vise le trépied. Donc là, il va falloir mettre le retardateur. Sauf que sur la photo, bien sûr, je vais voir le trépied. Donc comment faire pour l'enlever? Est-ce que quelqu'un a une petite idée? Il y a plusieurs solutions, bien sûr. Personne n'a d'idée? Monsieur? Comment ça? On met l'appareil photo dessous le pied. Ouais, mais vu que j'utilise un fisheye, si je le mets là, je vais voir les branches apparaître sur les côtés. Dommage. Bien tenté. Personne d'autre a une idée? Tout à fait. Alors, il y a plusieurs approches. Hein. Si on est pressé, si on n'a pas forcément du très très bon matériel, ou alors si il y a des arbres qui bougent, des feuilles par terre qui passent. Alors, ce qu'on peut faire, comme monsieur l'a dit, c'est placer un repère au sol. Donc là, le mieux, ça serait de faire descendre une ficelle par rapport à l'axe. Et en bas, mettre un repère sur le sol. Voilà, donc je le fais vite fait à peu près. Hein. Voilà. Mettre un repère sur le sol. Je sais que mon axe du trépied va aller toucher le boîtier du capuchon Nikon. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever. Ça, c'est l'approche, vraiment, je le fais vite fait. Il y a une autre approche, attention. Hein. J'enlève mon trépied, je prends une photo à distance, en essayant de viser. Ça, c'est de l'à peu près, si on est vraiment très pressé. Donc là, il y a le risque, c'est que je bouge avec ma main. L'autre approche, c'est de laisser le trépied où il était. Bon, là, je triche un peu. Hein. Je replace mon appareil photo sur la rotule à la pupille d'entrée. Je le laisse comme ça. J'ai toujours fait ma première photo où je vois le trépied. Je prends un petit tournevis. Donc là, si on utilise la tête Nodal Ninja, pas besoin de tournevis. Il y a une petite astuce, c'est une petite vis. Pas besoin de tournevis. C'est très pratique. Alors que moi, avec la Manfrotto, il va falloir que je prenne mon tournevis. Hop, je le desserre. Je viens placer l'appareil photo à l'extérieur, qui va viser donc non plus le trépied, mais l'extérieur. On va voir forcément les branches. Et vu que ma photo précédente était là, ma réglette était orientée dans cet axe-là. Cette fois-ci, ma réglette, je vais l'orienter différemment, donc à peu près à 90 degrés, et entre deux branches, de façon à avoir le moins d'éléments gênants par terre. Et là, je vais me décaler. Donc je vais tourner autour d'un pied. Et là, donc là je l'ai placé un petit peu trop haut, on va essayer de viser le capuchon en bas. Donc logiquement, il faudrait regarder. Donc je peux baisser. Hein. Avec le live view, viser le capuchon. Voilà. On ne change pas ses réglages. On prend la photo. Et les deux photos qu'on vient de faire, l'une avec le trépied, l'une sans le trépied, sous Photoshop, derrière, on va les assembler avec des masques de fusion. Donc vous allez voir ce que ça donne, je vais vous le montrer à l'écran. Donc, on a pris deux photos, rappelez-vous bien, avec le trépied. Et donc ces deux photos, c'est celle-ci. Une où on voit bien la réglette, où on a visé l'axe, et l'autre où on s'est décalé. Et au final, ces deux photos sous Photoshop, on va les assembler et ça va donner quelque chose comme ça. Donc là, bon, on a inséré des logos, mais au final, on voit vraiment le sol. C'est-à-dire qu'en appliquant un masque de fusion sous Photoshop, on a récupéré le sol. Donc il y aurait eu du carrelage, il y aurait eu n'importe quoi. du carrelage, du parquet, dehors, la route, n'importe quoi, on aurait récupéré la matière première du sol. Donc on a fait sa visite virtuelle en 9 photos, 6 horizontales, 7 au plafond et 2 au sol. On a fait une photo à 360 degrés et le résultat, messieurs, dames, c'est celui-ci. Donc bien sûr, j'ai triché, je ne l'ai pas fait en direct, je l'ai fait hier, le temps d'assembler la photo panoramique, etc. Le résultat, c'est celui-ci. C'est une visite virtuelle à 360 degrés durant une conférence où on voit vraiment du sol où j'ai inséré des logos, mais j'ai récupéré ma matière première, au plafond, à 360 degrés. Voilà. C'est ça le principe de la visite virtuelle. C'est magique, comme vous dites. Et on voit vraiment à 360 degrés. Voilà. Donc après, suivant le choix artistique qu'on veut donner, comme vous le voyez, la dame sur la droite, hier, j'ai posé à 1 seconde 3. Elle a bougé en 1 seconde 3. Manque de peau. C'est ce que je voulais. Ça donne du mouvement, ça donne de la vie. Le monsieur est un petit peu coupé, c'est pas grave, on voit qu'il a bougé. La dame, c'est pareil. Voilà, ça c'est le principe d'une visite virtuelle. On peut donner un choix artistique derrière. On peut faire ce qu'on veut. On fait ça, on règle sa focale, sa vitesse d'ouverture. On peut faire de la double exposition. Mais au final, c'est ça. On voit une photo à 360 degrés. Donc, suivant le choix artistique que le photographe peut donner, on peut donner du mouvement ou pas. Et donc, si on ne donne pas de mouvement, qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner ce que mon ami Stéphane Bonaric a fait en 2008. À 7,50 m de hauteur, sur un mât télescopique, une visite virtuelle du salon de la photo. Voilà, messieurs, dames, c'est vraiment du 360. Et c'est un travail de photographe, panographe. On voit à 360 degrés le plafond et le sol. Réalisé par monsieur Stéphane Bonaric. Je le remercie. Voilà. Donc vous voyez, suivant le matériel qu'on a, on peut faire des visites virtuelles en intérieur et extérieur, à 7,50 m de haut, à 100 m de haut si on a un ballon gonflable, à l'hélium. On peut faire une visite virtuelle dans une voiture. On va utiliser une ventouse qu'on va coller à la vitre. L'appareil qui va venir se fixer avec la rotule sur la ventouse au niveau du conducteur. On peut faire ce qu'on veut. À partir du moment où on a un minimum d'envie, un minimum de matériel, ou alors si on a du matériel pro, on peut faire des choses très très bien à 360 degrés. Et pour les gens qui ont un compact, eh ben c'est la même chose. Sauf que vous n'allez pas pouvoir visionner une visite virtuelle avec une qualité photo sur un grand écran comme ça, mais sur un tout petit écran, sur un écran d'appareil photo, même sur du 12 pouces, ça va être correct, on va dire. 12-13 pouces, ça va être correct avec un compact ou un bridge. Mais voilà, si vous voulez faire des belles choses, avoir zéro défaut d'assemblage, il faut utiliser du matériel professionnel, une rotule, une tête Manfrotto, un trépied stable qui ne bouge pas, et travailler en RAW. Voilà le principe des visites virtuelles. Donc une fois qu'on a fait ces photos, en fait, il faut les assembler par logiciel. Donc comme je le disais tout à l'heure, on peut utiliser Photoshop avec Photomerge, on peut utiliser le produit de Color, Autopano Giga, on peut utiliser Stitcher, on peut en utiliser plein. Et si on est vraiment un minimum professionnel, on va pouvoir corriger les aberrations chromatiques dues à l'objectif, les distorsions. Comme je viens de vous le montrer, on peut jouer sur le mouvement avec des personnes qui bougent, des arbres, des feuilles, des voitures. Et on pourrait s'étendre un peu plus sur le sujet. Il y a d'autres manières de réaliser ce qu'on appelle le nadir. Le nadir, c'est la photo du sol où on fait deux photos ou alors on en fait qu'une en enlevant le trépied. Voilà, après, c'est vraiment un travail de photographe. Comment est-ce qu'on développe ses RAW pour obtenir une visite virtuelle correcte? Voilà, donc là, vous avez un peu l'aperçu. On va insérer ces photographies dans le logiciel Autopano Giga qui va nous restituer une photo panoramique assemblée à 360 degrés, 360 en horizontal, 180 en vertical. Et le rendu, messieurs, dames, c'est ce que je viens de vous montrer. C'est quelque chose comme ça, à 360 degrés, ou bien celle-ci, sponsorisé par Déclencheur. Voilà le principe des visites virtuelles. Je vous remercie de m'avoir écouté, messieurs, dames. Si vous voulez des questions, je suis là pour répondre à vos questions. Et en matière de visites virtuelles, il y a quelques références en France et dans le monde, notamment Gilles Vidal, Arnaud Frisch qui est présent sur ce salon, qui est passé tout à l'heure. Il y a la société Color, avec laquelle on peut travailler pour les logiciels d'assemblage. Et puis, forcément, Photoshop. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté, merci Déclencheur pour m'avoir permis de faire cette conférence. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, monsieur. Madame ? Oui, vous utilisez Autopano. Vous n'arrivez pas à comprendre les projections. D'accord. Alors, avec le logiciel Autopano, on a plusieurs projections, comme vous le dites. Donc, une fois qu'on a inséré ces photos prises donc à l'horizontale et le plafond plus le sol, on les insère dans le logiciel. Et là, on va pouvoir choisir, alors de tête, quatre modes de projection. Rectilinéaire, sphérique, cylindrique et le dernier qui est apparu récemment, la dernière version, Mercator. Donc, le sphérique, bien sûr, ça va être pour faire une visite virtuelle à 360 degrés. Le cylindrique, ça va être plus étiré en hauteur, ça va être beaucoup moins sphérique, ça va être, c'est la forme d'un cylindre, hein, bien sûr, et ça va être plus adapté pour faire des photos panoramiques par assemblage. Et le rectilinéaire, on va l'utiliser pour faire des photos panoramiques, mais d'architecture, on va avoir des lignes droites. Et le Mercator, le dernier mode de rendu qu'ils ont sorti, en fait, c'est un compromis entre le rendu sphérique et le rendu cylindrique. Voilà. Ah, vous avez tout testé. C'est toujours tordu. Est-ce que vous êtes à la pupille d'entrée avec votre objectif ? Vous faites combien de photos ? 5 photos ? C'est que vous n'êtes pas exactement à la pupille d'entrée. Il faut refaire votre pupille d'entrée. Il faut... Ah non, non. Si vraiment vous avez des défauts d'assemblage, ah, vous n'êtes pas à niveau. D'une part, vous n'êtes pas à niveau. Vous n'êtes pas à la pupille d'entrée. Ce qui fait que derrière le logiciel... Il va pas trouver la zone de recouvrement correcte entre deux photos consécutives. Du coup, il va prendre un point qui ressemble sur deux photos, il va les joindre et ça va faire quelque chose de distordu. Après, il faut mettre les mains dans le cambouis, aller dans le logiciel et faire ses points soi-même. Ça, c'est possible avec Autopano Giga. Donc là, Autopano Giga, c'est pour faire l'image aplatie. Mais après, pour l'insérer dans une sphère, vous faites avec Autopano Tour. Et donc là, dans Autopano Tour, si vous avez des problèmes, il faut bien régler à 360 en horizontal et 180 degrés en vertical. Pas de solution, vous n'êtes pas la pupille d'entrée, je pense pas. Je vous aurais bien dit d'essayer, mais on n'a pas le logiciel en direct, je suis désolé. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Bon, sur un appareil réflexe, on peut faire aussi l'image virtuelle à 360 degrés ?
Bien sûr. Alors, un appareil réflexe, c'est un appareil où on va pouvoir changer l'objectif. Le but du jeu, c'est qu'on peut réaliser des visites virtuelles aussi bien avec un compact, sauf que ça va être un peu plus long, il va falloir prendre beaucoup plus de photos, alors qu'avec un réflexe, si vous avez un grand angle, vous allez prendre moins de photos, vous allez pouvoir travailler en RAW, régler votre mode d'exposition manuel, régler votre focal, régler votre balance des blancs manuel, vraiment travailler comme un vrai photographe. Voilà. Alors qu'avec un compact, eh ben, on va être un peu limité, il va falloir plus de photos, on va avoir des défauts d'assemblage. Mais voilà, le but du jeu, c'est quand même d'avoir un rendu qui est quand même très pro et très correct.
Je voulais savoir, c'est exclusivement destiné aux utilisateurs d'Internet, en fait, la visite virtuelle,
parce que, pas du tout.
En fait, là, on a étudié un système avec le haut et le bas.
Oui.
Dans une photo panoramique destinée à une exposition, oui. À un tirage sur papier... On est souvent uniquement à l'horizontale.
Oui, alors là, c'est
donc
plus
là,
de la visite.
Il y a une dimension supplémentaire qu'on donne pour l'utilisation sur Internet. Alors, créateurs de sites web et aussi architectes qui ont besoin de rendre compte d'une façade ou d'un appartement, de la conception d'un futur d'un appartement.
Tout à fait. Mais là, vous parlez de la photo panoramique par assemblage. La photo panoramique par assemblage, c'est un peu comme une visite virtuelle, sauf que la visite virtuelle, elle, eh ben, on a ce rendu-là. On peut être sur Internet, on peut l'avoir sur Internet, si on la diffuse sur Internet, mais si un constructeur automobile veut installer une borne et visiter l'intérieur d'une BMW, d'une marque X ou Y à 360 dans son espace à lui, et on va pouvoir intégrer la visite virtuelle dans son espace. Si on veut faire un tirage photo comme vous en parliez, comme vous l'évoquiez, on va pouvoir effectuer un tirage photo. Et là, ce qu'on aura... C'est plus un rendu virtuel, c'est un rendu papier physique, et c'est la photo à 360 que l'on va imprimer. Et là, vous pouvez en faire un tirage papier. La technique reste tout à fait la même. Comment ? Yes. Oui, avec Photomerge, on peut faire la même chose. Mais là où ça va être un peu plus compliqué avec Photomerge, ça va être pour la photo du sol et du plafond. Photomerge va plus servir à faire de la photo panoramique par assemblage à l'horizontale. Ça va être un peu plus compliqué d'assembler la photo du sol et du plafond. Autopano Giga, Stitcher, il y en a plein. Il y en a des gratuits, des payants. Alors avant, en fait, les visites virtuelles, on appelait ça des Quick TVR, QTVR. C'était QuickTime qui a sorti ça. Ce qui fait que sur les Apple, sur les logiciels, les ordinateurs Mac, on avait très peu de soucis pour visionner une visite virtuelle puisque le logiciel QuickTime était installé. Sauf que sur les PC, il fallait télécharger QuickTime, avoir toujours la dernière version ou la version à jour. Donc c'était un peu plus compliqué. Alors que maintenant, les visites virtuelles, les derniers logiciels, on travaille en Flash. Il faut savoir qu'il y a 90% des gens qui ont un ordinateur qui ont Flash d'installer automatiquement, qu'on soit Mac, qu'on soit PC. Donc forcément, à 90% des gens, on est sûr que tout le monde la voit. Oui.
Une question, vous avez parlé de prise de vue, prix d'un ballon. Comment concevez-vous la stabilisation de l'appareil ?
Alors là, c'est un peu plus compliqué. Il faut, alors, pour le ballon à l'hélium, alors, bon, déjà, c'est un très très gros investissement. Et en fait, le ballon à l'hélium, donc voilà, imaginez une sphère. En dessous du ballon à l'hélium, vous allez avoir une espèce de mécanisme qui va être téléguidé par ordinateur. Et la stabilisation, on va pas être forcément à l'horizontale exactement parce qu'il y a toujours du vent, etc. On essaie quand même de se stabiliser un minimum, mais on va faire beaucoup moins de photos que si on était au sol. Du coup, les zones de recouvrement vont être un peu moindres, mais on aura quand même le rendu final qui sera le même. Voilà. Oui. Ah, vous faites du ballon. Super.
Oui. Alors, il se trouve que je fais de la photographie, la visite virtuelle par ballon.
Ouais.
Donc, la photo par ballon, dans ce cadre-là, n'est envisageable que des journées où, exceptionnellement, la vitesse du vent est nulle.
D'accord.
Donc, ça réduit vraiment les créneaux. Il faut être là au bon moment, quand le soleil est suffisamment haut. Là, déjà, c'est trop tard. On est sur un créneau de mai à septembre. Après, on ne fait plus de...
Et pour le problème de l'horizontalité ? Comment est-ce que vous résolvez
l'horizontalité? Alors, par ballon, en fait, moi, je travaille avec en focal 10 mm. Mm-hmm. C'est pas un fisheye. C'est une douzaine de photos pour un 360 degrés, un premier 360.
Ouais.
Il y a deux couronnes à 360 degrés qui se chevauchent.
D'accord.
Plus des photos nadir. Donc, il y a en général 28-30 photos. Là
l'an
prochain, je vais passer au fisheye. Donc, il y en a une qui est floue et c'est foutu.
D'accord. Mais alors, il me semble qu'en ballon, on peut quand même mettre un fisheye et diminuer le nombre de photos. C'est ce que fait Gilles Vidal sur un monopode. En 4 ou 5 photos, il a fait sa visite virtuelle.
Sauf si qu'on peut prévoir, par exemple, un one-shot.
Un one-shot ?
Voilà.
La qualité ne va pas être super. C'est ça, quoi, le problème. Parce que après, forcément, pour faire des visites virtuelles, il y a de superbes entreprises qui ont trouvé un moyen super de créer un appareil où on a un miroir qui prend à 360 degrés en un coup, sauf que la qualité derrière, eh ben, elle est nulle, on ne peut pas zoomer. C'est très, très, très moyen. C'est du one-shot, comme vous dites, mais moi, je suis sceptique vraiment sur la qualité. Je préfère faire plus de photos, comme le monsieur en aérien, faire plus de photos pour avoir quand même une résolution derrière qui soit correcte.
Oui, pour répondre à la question de tout à l'heure, on parlait du format de sortie entre le QuickTime et le Flash.
Oui.
Mais il me semble que l'avantage du QuickTime, c'est de pouvoir zoomer par rapport au Flash. Non ?
Eh bien, je suis en Flash, je peux zoomer.
Ah, d'accord.
On peut zoomer autant qu'on veut, autant qu'on l'a programmé pour.
Bien.
Ah non, QuickTime ou Flash, on fait exactement la même chose en QuickTime et en Flash. Et l'avantage du Flash, derrière, c'est qu'on peut générer... Bon, après, c'est un peu plus de l'informatique que de la photo... Mais on peut générer des fichiers pour personnaliser sa visite virtuelle. On peut intégrer un menu où on va pouvoir naviguer, une image d'accueil, mettre un logo, le nombre de visites virtuelles. Tout à fait. Mettre des points chauds pour passer d'une visite virtuelle d'un lieu à un autre. Donc weekend, très difficile à faire. Beaucoup plus compliqué.
Bien. Merci Mathieu
Merci pour
cette présentation qui était vraiment très très claire.
Merci à toi.